Vous écoutez
RMC.
RMC, 15h-18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le Super Moscato Show, ça continue jusqu'à 18h. Ensuite, place à l'Intégral Sport sur RMC. Le Kikadi, bien sûr, pour finir l'émission. Adrien.
Vincent Moscato, toujours régulièrement en tournée, hein, donc il n'est pas toujours physiquement avec nous. Et parfois, il se trouve qu'il a la fibre sur son téléphone. Et tous ses amis lui envoie des SMS. Après, bon, la façon dont Vincent les interprète dans le Kikadi, on vous laisse découvrir tout ça à 17h45.
Et puis ce qui est bien pendant l'été, c'est oui. qu'après le Kikadi, il y en a encore. Vous aurez bien sûr ce soir, encore une fois, un petit cadeau supplémentaire d'un délire de Vincent Moscato. D'abord, dans une demi-heure, bien sûr, la solution est de virer Nasser Al-Khelaïfi. Ça, c'est un débat sérieux sur le PSG. Mais d'abord, un débat avec un grand exercice de mauvaise foi. Denis règle le problème de Yaya West. C'est parti, Eric, dans un numéro de claquette incroyable.
Allô, 1, 2, 3, c'est bon ?
1m63 et 80 kilos de muscles.
Le rugby accepte toutes les différences.
Un gabarit aussi impressionnant que ses statistiques. Le castré est le meilleur réalisateur du top 14 avec 2303 points dans sa carrière.
L'aventure humaine, et moi ce que je mets en valeur, c'est les valeurs.
On le surnomme d'ailleurs Robocop en raison de son attitude mécanique avant de tirer.
Le rugby, c'est la plus belle école de la vie. Ça permet à un homme de devenir meilleur.
En fou de cet exercice, il le répète des dizaines et des dizaines de fois par jour.
Un petit coup de pied à celui dans le taper sur son pied droit, pas d'autre côté.
Quand ça rentre, c'est bon. Hein.
Denis, il va te le régler le problème.
Moi, mais ça, c'est pas le roi des clichés, Denis, finalement.
Non, du tout.
Alors, tous les clichés sur le rugby,
on va te sortir des phrases, toi, tu vas voir.
Non,
les gamins, on est plus des gamins maintenant.
Ah non, mais il y a les sourcils, c'est tout ce que tu veux. Après, il y a les clichés.
Ah oui, d'accord.
Le mec qui a traité les clichés dans le rugby, c'est Denis Charvet.
Tu vas me faire un montage, fais-moi plaisir, d'accord. Un petit montage sur
les clichés d'Eric.
Le rugby, c'est un peu vraiment des copains, et quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains.
Ça, c'est pas moi.
Eric Souris dit le jeu était là. Et oui,
mais mais là, moi je veux bien, il y a des saucisses. Ouais, c'est pas de
ça, j'arrête.
Après, il y a des clichés.
Mais il y a des coupes, c'est coupé. Tu vois bien que c'est coupé. Il y a la profondeur derrière.
Alors, j'ai reçu un texto de Pierre Salvette qui me dit un mec qui parle des buteurs qui a passé sa vie dans la cage.
C'est pas exactement des buteurs.
La cage, c'est pas moi.
En fait,
c'est
on va s'occuper du cas Yaya West. Hein, c'est très clair.
Mais non.
Bien sûr que si. Denis, tu vas faire ta mise au point.
Oui.
Mais on va en faire un débat. Est-ce qu'on peut imputer les échecs de La Rochelle à la qualité de son buteur Yaya West? On a commencé à en parler dans l'émission. Tu en as remis une couche dans le podcast entre les poteaux en disant que, en gros, c'est un buteur de Pro D2. Tu as reçu du coup d'innombrables messages, soit de soutien, soit de critique en provenance de La Rochelle. Donc, mise au point et on débat. Peut-on gagner sans un grand buteur? Denis, c'est à toi. Quel est le problème avec Yaya West?
D'abord, il y a des grands buteurs en Pro D2, donc j'étais un peu méprisant.
Soit méprisant, je te demande.
Non, mais le mec fait marche derrière aujourd'hui.
Oui, on le connaît,
pas du tout.
Laissez-le, 2 minutes quand même.
Je ne peux pas commencer.
Denis, vous avez la parole, allez-y.
Alors je me suis énervé, je vais te dire, c'est quand je vois ce match contre le Racing et La Rochelle. Et c'est un petit miracle que La Rochelle passe, parce que le fait que West ne mette pas ses pénalités, tout d'un coup, ça tourne au cauchemar. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est bis repetita de l'an passé, la finale, les deux finales.
Alors, écoutez,
le problème, il y a West, moi, j'ai rien contre lui. C'est un bon buteur, sûrement c'est un bon buteur, mais c'est pas un grand buteur. Un grand buteur, c'est quelqu'un qui est froid et qui, en tous les grands matchs,
il est à 90%.
Il est à 90%. Tu regardes les stats, c'est simple. Le problème, moi, pourquoi je suis j'enrage, c'est que, mais je suis pas contre lui, attention. Je dis juste qu'une grande équipe aujourd'hui ne peut pas gagner.
Tu veux dire que La Rochelle n'a aucune chance avec Yaya West?
Non, c'est pas ce que je dis.
C'est beaucoup plus dur.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de grandes équipes aujourd'hui sans grand buteur. L'équipe de France a gagné le Grand Chelem grâce en partie à Jaminet. Jaminet aurait manqué 2-3 pénalités, mais il n'aurait pas gagné le Grand Chelem. C'est aussi simple que ça. Regarde les matchs.
C'est pas lui qui buterait, je suis d'accord avec toi.
Non, mais regarde les matchs, c'est simple. Tu regardes toutes les grandes équipes, elles ont des grands buteurs. Oh, ça s'invente pas. Et de plus en plus. Et alors, ce que je veux rajouter, c'est que dans les phases finales, c'est capital. C'est-à-dire que tu vas en finale, si tu faut prendre le score. Moi, j'en ai joué, j'ai eu la chance d'en jouer des finales. Quand tu prends le score, tu peux te dire que tu as fait un grand pas en avant. Mais chaque fois, tu as besoin du buteur. Tu as besoin de la pénalité qui te fait gagner, qui te fait passer devant. Mais malheureusement,
qui te fait souffler.
Mais surtout, qui te met en confiance, surtout. Non, mais l'incidence, c'est la confiance que tu.
Le traité de pompe, quand même.
Non, je n'ai pas dit que c'est une pompe, pas du tout. Je respecte.
Dis-le.
Je vais vous dire.
Denis, toi, tu as buté, toi, dans des saisons.
Beaucoup de saisons, j'étais même troisième du championnat à le Stade Toulousain, j'avais aucun mérite puisqu'on marquait beaucoup d'essais, mais surtout j'étais pas un grand buteur, j'étais un bon buteur mais j'étais pas un grand buteur parce que j'étais pas froid, d'un temps je loupais les pénalités qu'il ne fallait pas le sais moi-même,
t'étais pas Christophe Gélo quoi pour comparer
je vais même plus loin, je pense que c'est une vocation, je pense que le grand buteur c'est celui qui aime ça, et qui va à l'entraînement, qui passe des heures, je dis pas qu'il y passe pas des heures, West. Mais le constat, il est froid. Je suis désolé.
Le constat, quand même, c'est qu'il a une grande responsabilité dans les échecs en finale l'an dernier.
Mais bien sûr, qu'il a une grande responsabilité. C'est pas de dire du mal de lui ou d'être critique. C'est de dire que l'incidence que ça a eu dans ces finales,
elle est énorme. Pour que tu conclues là sur ton réglage de problème, est-ce que c'est pas de la responsabilité, en fait, de La Rochelle? C'est-à-dire que La Rochelle, aujourd'hui, c'est une grande équipe. On est d'accord. Ils sont en finale régulièrement de tous les championnats et des Coupes d'Europe. Mais comment, dans un effectif de ce niveau-là, comment le président et le manager et les managers qui se sont succédés n'ont pas recruté dans l'effectif plan B,
ils ont appris de leurs erreurs parce qu'ils recrutent Astoy qui est un très gros buteur.
Ouais, mais ça arrive tard, Denis. Ouais.
Hein. Ça arrive, mais bon, ils ont appris. Voilà, j'espère que Wes vous entend et qu'en finale, il me fera mentir et qu'il vienne s'expliquer au micro. Peut-être qu'en finale, il va faire gagner La Rochelle.
Mais c'est pas lui qui s'explique. C'est toi qui va falloir que tu t'expliques.
Ce qu'il veut dire, c'est que s'il le fait mentir en finale, tant mieux pour lui. C'est ça qu'il veut dire.
Tant mieux pour lui.
Moi, je te soutiens, Denis. Il faut arrêter d'être focus.
Ben oui,
West a une grande responsabilité dans l'échec de La Rochelle l'an dernier. Ça ne veut pas dire que c'est une pompe et il faut lui souhaiter qu'il te fasse mentir cette année en finale. Bien sûr, il n'y a jamais rien décrit. Mais je ne sais pas si. Mais moi, je suis d'accord. Ouais, connaissez-vous une grande équipe qui gagne sans un mec à 85-90%?
Toulouse l'année dernière. Toulouse l'année dernière gagne grâce à Ramos. À qui? À Ramos. Ramos, c'est du 85-86-87%.
À Ramos aussi.
Non, mais en fait, les stats, à la limite, ça n'a pas d'importance.
Ah, d'accord.
La stat qui compte le plus, c'est les trois qu'il faut passer en finale, Eric.
Platini, il n'a pas raté penalty.
Platini a raté un penalty, ça sauve Yaya West.
Mais ce que vous dites, ça veut rien dire. Un bon buteur, c'est le pourcentage, fondamentalement, c'est tout.
Thomas Ramos, en finale de top 14, il pleut, il vante au Stade de France, il met tout.
Après, attention, la deuxième finale de La Rochelle, c'est pas Tata West qui l'a fait perdre.
Voilà,
mais non, mais vous rigolez ou quoi? Il loupe 2-3 pénalités en première mi-temps.
Il peut raccrocher.
C'est pas vrai, Vincent.
Je vais te dire, la confiance des buteurs vient aussi de son paquet d'avant, de ses trois quarts, vient aussi de la confiance politique.
C'est jamais la faute de personne.
Si, c'est la faute de tu perds. C'est pas que le mec, les gars, c'est que la deuxième finale, ils sont mauvais comme les cochons.
Non, mais vous, quand vous aviez, comment il s'appelle, Diego Dominguez, vous n'étiez pas bon tout le temps. Excusez-moi, il te mettait tous les buts. Il a loupé aucun.
Non, mais c'est vrai.
Alors, Eric, à toi, vas-y.
Moi, je veux qu'on me donne les stats.
Oh, ça y est, donne ton avis.
Mais avant qu'on ait trouvé.
Moi, je veux que Cédric Villani donne les stats.
Je vais te donner, mais est-ce que toi.
Puisque là, on parle de froidement de meilleur buteur. Donc, malheureusement, je suis désolé, mais le pourcentage rentre à ligne de compte.
Mais oui, mais c'est pas l'élément principal. C'est pas l'élément principal, Eric.
Oui, mais le gros problème qu'il y a dans votre débat, c'est que si il fait 100% final et qu'il gagne, comment vous allez revenir lundi à l'antenne? Vous allez revenir à
la
c'est n'importe quoi ce que vous racontez.
Mais si
parce
finale,
que vous jugez
un bien
sur une finale ratée de toute une équipe.
C'est pas une foi. C'est le problème.
Donc je veux les stats. Voilà, moi je veux les stats.
C'est pas, pas une foi. Le problème, si ça serait une foi en passant, je dirais oui.
Pourquoi vous donnez pas les stats?
Dis-lui un chiffre.
Pourquoi vous donnez pas les stats?
Il a 61%.
Non, c'est ton plus.
C'est vraiment un chiffre.
62,5.
Ah, donc on fait un débat. On parle de l'efficacité d'un buteur qui est coté à pourcentage et vous l'avez même pas.
Vas-y. On parle pas de pourcentage, on parle des moments décisifs et des finales, Eric.
On l'a pas, mais on se souvient parfaitement des deux finales l'an dernier, par contre.
Non, mais c'est vrai. C'est une escroquerie, là. Franchement, c'est une escroquerie. Après votre débat, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que vous pourfendez un mec comme ça, gratuitement, sur une finale ratée, collectivement, donc avec des mecs devant qui sont passés au travers, c'est-à-dire que il y a 15 mecs qui passent au travers, vous crucifiez un mec.
Non.
Une équipe qui arrive en finale encore cette année. C'est-à-dire que s'ils arrivent en finale cette année, c'est qu'il n'a pas de pied carré quand même.
Pour commencer, la demi-finale, c'est miraculeux. C'est pour ça que je.
Ah, c'est miraculeux.
Il t'a dit que la seule façon de la perdre, c'est parce que Yaya West manque un infernal coup de pied. Il a mis une sur quatre.
Il a des arguments quand même.
D'accord. Ou quoi ?
Écoute, vous savez quoi ? J'attends le nid.
Mais non, mais c'est pas con. Non, mais
t'as bien
Eric. Eric, quand on s'est débattu. Le lundi dans 15 jours, quand ce sont les finales. Et je vais vous voir arriver à l'antenne. Et j'attends de vous voir arriver à l'antenne.
À ce moment-là,
dans 15 jours.
À ce moment-là,
j'espère pour lui que
À ce moment-là, Denis prend jamais aucun parti. Si on attend les matchs.
Donc on fait jamais un débat.
On fait jamais un débat.
On regarde les résultats des matchs. On dit bravo, lui, il a gagné.
Les débats.
Tant pis pour celui qui a perdu.
Les débats, c'est pas des paris. C'est pas des pronostics. C'est le sentiment sur un moment donné.
Non, mais c'est des constats.
Sinon, plus jamais de débat.
C'est un constat froid qu'on fait.
On va demander à prendre le supporter de La Rochelle.
Donc,
et puis c'est tout, hein.
Donc toi, Denis, tu m'expliques que La Rochelle, régulièrement en haut du tableau et en finale ces dernières années, a un buteur qui est une pompe.
Mais c'est pas une pompe, c'est pour moi, non, c'est pas
ça que
un
tu
grand
dis.
Buteur.
J'attends les stats pour que vous m'expliquiez ce que ça veut dire un grand buteur.
Parce que 75% de.
Et les autres, oui, mais les autres.
Éric, Mortel Paris, il y a 92%.
Non, mais c'est les stats de quoi, là? Parce que là, vous êtes.
C'est les stats de Villani.
Mais des tirs au but.
Il y a des tirs au but quand même.
De la saison.
De quand tu prends le ballon et tu tapes tes 6 passes.
C'est que tu as trouvé ça.
Ben dans les papiers dans la presse, ah, Eric.
D'accord, mais non, mais je veux vérifier. Mais non, parce que si vous me donnez des stats qui de l'année 2018 et de l'année 2022, mais quoi, c'est l'enfer.
Alors la question pour sortir de Yaya West, Eric, est-ce que sans grand buteur, tu peux gagner de grands titres? Est-ce que c'est possible selon toi, Eric, de ce que tu vois en tant qu'observateur averti du rugby aujourd'hui?
Parle-nous.
Au-delà du cas de Yaya West spécifique, est-ce qu'on peut gagner un titre sans grand buteur aujourd'hui?
Je pense que non. Quel escroc!
Cette émission est magique!
Mais quoi, tu me poses une question, moi je réponds.
Souvenez-vous, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est il y a
mais non, mais quand t'es pourquoi vous rigolez mais tous les quatre comme de quatre jetons là?
Mais parce que t'es moins intelligent que toi, c'est pour ça!
Non, mais c'est parce que. Non, mais moi
je n'accepte pas que le mec ait raté ses finales.
Mais
c'est un fait!
Mais je te dis, tu ne peux pas gagner sans grand buteur, mais vous avez décrété que mec n'est pas grand buteur parce que. Il rate une finale.
Et donc, je vous dis juste
que la réponse, peut-être qu'on l'aura dans 15 jours et qu'il va falloir que vous allez venir m'expliquer. Parce que s'ils gagnent avec
un grand
buteur, ça voudrait dire qu'un grand buteur et qu'ils ont gagné avec un grand buteur. Moi, je réponds à deux questions, je suis désolé.
Ils peuvent aussi gagner sans un grand buteur.
Parce que vous, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que La Rochelle a zéro chance de gagner.
Non, quand on l'a dit. Alors, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que c'est leur talent d'Achille.
Je me calme et j'essaie de vous expliquer. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas gagner sans grand buteur.
Non.
On est d'accord.
Tu viens de le dire.
Oui. Non, mais mais la différence avec vous, c'est que moi, je ne pense pas que ce soit un buteur moyen. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un buteur moyen.
On n'a pas dit ça, jamais.
Qui a dit
ouais, c'est un buteur moyen?
J'ai dit que c'est un bon buteur.
Alors, si vous ne l'avez pas dit, vous avez dit la 75%, l'autre 85%.
Le talent d'Achille de La Rochelle, oui, c'est Yaya West. Oui, ça, on l'a dit.
75%, c'est un buteur pas moyen, mauvais de.
Non. Alors on va donner la parole à un supporter rochelais, tiens, Damien au 32-16. Salut Damien.
Salut Moscato Show.
Comment il va, Damien?
Ça va. Ah, écoute, on est bien.
Alors cette équipe de pompe, comment ça va?
L'équipe de pompe, elle est quand même en finale pour la deuxième année.
Bravo parce que vous faites un jeu formidable.
Damien, tant que vous n'aurez pas gagné un titre, Vincent vous méprisera. Ça, sache-le, c'est pas lié à vous, c'est comme ça.
Et j'ai vu un article de Denis, il a traité vraiment de pompe, hein, parce que c'est quoi un Pro D2, il a dit?
Oui, mais en Pro D2, il n'y a pas de pompe.
En Pro D2, c'est des pompes.
Il y a des grands buteurs pour
les deux. Ça c'est les gens qui balancent et qui n'assument plus derrière. On les connaît l'histoire.
Non, mais tu peux gagner sans grand buteur, hein, avec une grosse défense et un gros pack devant. Exactement. Ça peut passer. Hein.
Oui, comme l'année dernière.
Après, c'est sûr que c'est les points faciles. Et quand tu te mets le match facile, quand tu mènes le score.
Mais c'est l'incidence que ça. C'est, moi, on s'imagine, on s'imagine pas à quel point l'incidence est énorme. C'est-à-dire que la confiance que ça apporte.
L'an dernier, ils peuvent prendre le score en finale du top 14.
Sur ces stats, pour vraiment être un peu plus précis, c'est-à-dire que ça va un peu mieux depuis un mois en régularité. Du début de la saison jusqu'à il y a un mois, c'était 66% de réussite quand même. Hein. C'est pas beau.
Ouais, c'est pas très bon.
Mais c'est le problème. Là, ces derniers mois, ça allait un peu mieux.
Damien.
Ouais, c'est ce que je disais à votre standard, en fait. C'est que là, ça va un peu mieux. Donc là, c'est sûr que la demi, c'était un peu raté. Mais quand tu regardes les derniers matchs, il a quand même été là. Il a été présent. Il met 3 points là.
Ah, c'est Bordeaux, c'est beau joueur.
Face à Bordeaux, en fait, au dernier. Donc. Et surtout dans le jeu, il fait vraiment du bien.
Non, mais c'est non, pas le mauvais joueur. Il a ce problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui bute. Lui, c'est un bon animateur dans le jeu, c'est un bon joueur. Mais le problème, il a ce problème de tir au but. Et tu sais bien que quand tu me dis, il faut un avant, il faut avec un gros paquet d'avant et une bonne défense. Mais en face, les autres en finale, ils ont tous des gros paquets d'avant et des bonnes défenses. Le problème, c'est que tu joues pas la sauce. Tu vois ce que je veux te dire? En finale, tu vas jouer contre Leinster. Leinster, un gros paquet d'avant. Et une grosse défense. Et en face, il y a Sexton. Voilà, encore une fois, j'espère que vous allez gagner. Bien entendu qu'on le souhaite par-dessus tout. Maintenant, si l'autre commence à avoir la tremblante, Jojo le trembleur, on l'appelle. Non,
9 fois sur 10, tu gagnes le match grâce à un buteur. 9 fois sur 10. Il n'y a pas d'histoire. Hein, c'est juste que c'est un constat. Après, La Rochelle, ils sont pas sûrs qu'il va buter en finale.
Alors, parce qui d'autre?
Et Popelin, ils sont en train de parler d'un joueur.
Oui. Alors, il y a Sébastien Boboul, qui est entraîneur des arrières du Stade Rochelet, qui a abordé dans la presse dans Sud-Ouest le sujet il y a quelques semaines.
Ouais, Boboul, de manière
très transparente.
Non, Eric, boule
un des entraîneurs de La Rochelle qui nous dit cette année, on est un peu en manque de confiance au niveau des buteurs. C'est un entraîneur de La Rochelle qui dit ça. Dur. Inconsciemment, je pense qu'un joueur du Stade Rochelet qui tape dans le ballon a une pression supplémentaire à chaque match. Que ce soit Ouest ou Jules Plisson, parce qu'on sait que notre pourcentage de réussite n'est pas très élevé. C'est ce que dit un entraîneur de La Rochelle. Il y a les stats et il y a le ressenti aussi du staff. Donc ils ont une difficulté là-dessus cette saison.
C'est une question de confiance, donc c'est une question de qualité.
On n'a jamais dit qu'il était moyen.
Et dans vos stats, parce que Vincent, avec les pieds carrés qu'il a, parce que je les ai vus, les pieds carrés qu'il a.
Ils sont moches,
on est d'accord. S'il a des mecs qui vont mettre des essais et qui récupèrent des fautes à 20 mètres du but ou à 30 mètres du but face au poteau chaque fois. Il va avoir 100%. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans vos stats pourris,
il va falloir.
Et voilà, donc c'est tout. Donc, mais tu sais quoi? Écoute-moi, je bois du petit lait, j'attends dans 2 jours.
Le Super Moscato Show revient tout de suite. Débat sérieux sur le PSG et son président Nasser Al-Relaifi. Invité passionnant Arthur Guérin-Boueri, c'est de l'apnée. Et puis un final en fanfare avec le Kikedi et Vincent, qui a des petits problèmes de construction grammaticale. À tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le Super Moscato Show jusqu'à 18h. Avant de laisser la place à l'intégral sport, on a encore pas mal de choses très rigolotes à vous faire écouter ou passionnantes.
Oui.
Avec Arthur Guérin-Boueri dans un instant. Je ne sais pas si tu as remarqué, Adrien. On fait énormément d'apnée dans cette émission.
Oui.
C'est fou, hein. Peut dire que ce sont des témoignages incroyables.
Dès qu'il y a des champions d'apnée qui viennent, parce qu'en fait, on apprend des choses, c'est dingue. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un monde qui est totalement différent de celui de Vincent. Donc à chaque fois, Vincent est captivé.
Et puis alors, bien entendu, les interviews du Super Moscato Show sont pas tout à fait comme les autres. Au milieu de l'interview, il y a des délires de Vincent, bien entendu. Hein. Donc ça, c'est dans une dizaine de minutes. Avant cela, débat après l'élimination du PSG en Ligue des Champions. La solution est-ce de virer Nasser Al-Relaifi?
Qui a eu l'idée
que Nasser Al-Relaifi?
Benzema,
qu'est-ce qu'il nous fait?
Et le but,
incroyable,
le double.
On a vraiment tout pour gagner tout le tournoi. On est une grande équipe aujourd'hui.
Énormément.
Honnêtement, je comprends pas comment on a joué comme ça.
L'histoire de ce club est incroyable. On a l'impression de revivre à chaque fois les mêmes scénarios.
Je pense que j'étais très clair. Je suis très clair. Tout le monde le sait, notre position. C'est très clair.
T'es quoi? Je te flagelle la gueule à coup de cravache.
Allez, l'élimination du PSG, encore une fois, rocambolesque. Vincent, scénario de match fou, mais beaucoup plus fou l'après-match. Carrément surréaliste. Le président Nasser Al-Khelaïfi a complètement craqué. Il s'en est prié aux arbitres, ajoutant la honte à l'humiliation. La gouvernance de ce club est au cœur des critiques depuis un moment. Hein, maintenant, la solution est de virer Nasser Al-Khelaïfi. 32-16 ou Twitter pour participer au débat. Alors, il y a eu cette info après le match, quelques minutes après le match, qui a commencé à sortir dans les médias espagnols et que depuis, on a eu le temps de vérifier et de détailler. Donc, Loïc Braillet va tout nous dire. Salut Loïc.
Salut tout le monde.
L'info était qu'il y avait eu un incident entre des dirigeants parisiens et les arbitres. On sait à peu près dans le détail ce qui s'est passé.
Exactement. Alors, c'est nos confrères de la Cadena Copé qui ont sorti l'info en premier. Il faut quand même rappeler le contexte aussi de ce match retour pour Nasser Al-Khelaïfi. Un match qui revêtait une importance extrême. Pourquoi ? Parce que le prestige de l'adversaire était tout particulier, qui avait un avantage après le match aller et surtout qu'il s'estime toujours avoir été trahi, en tout cas, par Florentino Pérez dans le cadre de la Super League, oui. Où, avec ce projet dissident dont Pérez est l'un des moteurs. Voilà, rivalité politique désormais. Ça, c'est pour le contexte. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux fils de Nasser se sont touchés au moment du coup de sifflet final. Au vu du scénario de cette fin de match, coup de sifflet final, à cet instant précis, il descend en furie, accompagné de Leonardo et de plusieurs personnes du club qui l'entourent systématiquement au PSG, quels que soient ses déplacements. Les deux se précipitent dans les couloirs pour rejoindre directement le vestiaire des arbitres, parce qu'ils ne comprennent pas comment l'arbitre n'a pas pu siffler faute sur Donnarumma, faute de Karim Benzema. Selon eux, ils arrivent très énervés, ils crient à tout va, nous dit-on. Les arbitres leur demandent de sortir de l'entrée du vestiaire où la porte était plus ou moins ouverte. Les arbitres ferment la porte. Leonardo frappe sur la porte et met quasiment un pied en travers de la porte pour qu'elle reste ouverte et puis qu'il puisse engager un dialogue. Et à ce moment-là, apparemment, il y a Nasser qui parvient dans un geste à casser le drapeau du juge arbitre. Faut quand même imaginer la scène. Nasser qui est toujours quand même très propre sur lui, très classe.
C'est Jojo.
Il vrille complet. Il casse ce drapeau. À ce moment-là, il se rend compte qu'il y a une personne du Real Madrid, on n'a pas pu exactement identifier qui, mais a priori quelqu'un du service communication du club, qui est en train de filmer ce qui se passe tout près de Nasser, à 1 mètre, 1 mètre 50. Nasser s'en aperçoit. Alors là, l'énervement monte d'un cran encore. Il lui dit d'arrêter, il lui répète d'arrêter, arrêtez de filmer. Et d'un coup, il s'énerve, il lui tape un peu sur le poignet, le téléphone tombe, comme s'il voulait l'attraper pour le casser. Bref, là, il y a des personnes de la sécurité qui arrivent pour calmer tout le monde. Finalement, les esprits se calmeront définitivement dans un bureau à côté de l'arbitre, du vestiaire de l'arbitre. La vidéo, l'entourage de Nasser demande à ce qu'elle soit effacée. A priori, ça n'a pas été fait puisqu'on a eu écho que le club l'avait gardé, qu'il comptait l'envoyer à l'UEFA, qui pourrait du coup ouvrir un dossier disciplinaire contre Nasser Al-Khelaïfi. On nous dit quand même aussi que le Real ne veut pas trop en rajouter non plus sur cet épisode-là. Le Real a gagné. Ouais. Le Real a un joueur fantastique, Benzema.
Il y avait des bonnes relations pendant des années. Aujourd'hui, il se déteste. Ouais, voilà.
C'est pour ça qu'il ne verrait pas d'un mauvais œil non plus que l'UEFA ouvre un petit dossier disciplinaire.
En fait, ça sert à rien. C'est juste embêter.
Ils ne vont pas en faire une montagne non plus. D'autant qu'on nous dit quand même, malgré tout, que quelques heures plus tôt, au moment du fameux déjeuner entre les dirigeants, c'était cordial. C'était pas chaleureux, mais c'était un petit peu plus cordial qu'au match aller où là, ça avait été glacial avant le match au Parc. Voilà.
Je comprends. Après, moi, je vais pas non plus assassiner tout le monde parce que les mecs pètent les plombs. C'est des matchs sous haute tension. C'est vrai. Alors, on va dire il doit pas. C'est le président. Il ne doit pas péter les plombs. Tout ça, oui, bien entendu. Ça doit être une telle déception que tu peux comprendre des craquages, même s'il le faut pas, même s'il doit garder son, même s'il doit être à la hauteur.
Pas ça, de si l'événement. Te plaît, à la souffrance de tes supporters quand même. Soit digne au moins.
Il ne l'a pas été, je ne le condamnerai pas là-dessus. À la limite, je dis, ça fait partie de Leonardo qui est habitué à ça aussi, c'est minable. Mais bon, je dis, on n'a pas été tout le temps très brillant dans notre vie, donc c'est pas ça. Mais ce que je veux te dire surtout, c'est que je ne vois plus ce qu'il fait au PSG. Ça fait 10 ans. À un certain moment, il faut que les émirs de, je ne sais pas qui,
l'émir du Qatar,
prennent ses responsabilités, ça ne marche pas. Il ne peut pas. C'est une gérance, le PSG. Encore une fois, je vous le dis, il n'appartient
n'appartient pas au Qatar. Même si tu mets de l'oseille dessus, c'est un club professionnel. Il y a une ville derrière, il y a des supporters, il y a une entité, le PSG. Après eux, il vivra toujours à plus ou moins haut niveau, mais il vivra. On a vu Marseille ou d'autres clubs, ben, des fois se mourir, mais bam, ça ne meurt jamais. En vérité, ça revient tout le temps. C'est une entité.
On continue, bien sûr, dans 5 grosses minutes. C'est le Kikadi. Oui. Juste après Vincent et sa façon de parler particulière au Sud-Ouest, bien entendu. Et d'abord, Arthur Guérin-Bouhery, l'apnéiste, qui était notre invité le 16 mars.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Arthur Guérin-Bouhery, qui vient de battre un record du monde de nage en apnée sous glace, qui est le cri du cœur du Super Moscato Show. Bonjour Arthur.
Arthur, comment ça va?
Il est bon.
Salut. Ça va, Arthur. Merci de venir dans le Super Moscato Show.
T'es encore froid, Arthur, on va décrire le record parce que c'est un record d'apnée, mais contrairement à peut-être à l'image qu'on a habituelle, c'est pas de l'apnée en profondeur. Tu vas pas descendre au plus profond de la mer pour battre un record. Tu as nagé sous la surface de l'eau, mais bien sûr à l'horizontale, sur 105 mètres. Alors là, la grande difficulté, c'est que tu as fait ça sous une couche de glace de 15 cm en maillot de bain, c'est-à-dire sans combinaison, dans une eau à 0,7 degrés sur une durée totale de 2 minutes 27. Le précédent record, tu l'as battu de 2 mètres. Il appartenait à une Finlandaise qui s'appelle Johanna Nordblad. Tu as tenu 105 mètres. Alors explique-nous cette folie. Pourquoi faire de l'apnée sous glace? Quel est l'intérêt?
En fait, moi, j'ai un passé d'apnéiste plus conventionnel. Mes premiers titres de champion du monde et mes premiers records, je les ai faits en fait d'une manière plus classique, c'est-à-dire en bassin ou même en mer d'ailleurs, où j'ai eu des records sur des épreuves en mer. Et j'adorais l'eau froide, depuis un bon moment. J'étais déjà initié à la nage en eau froide. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lier les deux et lier ma passion pour l'apnée et l'eau froide. Et je savais qu'il y avait des mecs comme ça dans les pays du Nord, en Russie, en Finlande, qui tentaient comme ça des records d'apnée sous glace. Et je me suis dit, allez, je me suis lancé dans l'aventure. En 2017, j'ai eu un premier record avec ma combinaison et ma monopalme. Et puis là, l'année dernière, j'ai fait avec ma combinaison toujours, mais sans ma monopalme à la brasse. Et cette année, c'était le climax de tout ça. J'ai fait sans palme, sans combinaison.
Au départ, tu as fait de la natation?
J'ai jamais fait de natation à haut niveau. J'ai toujours nagé pour le plaisir. Mais
tu as nagé pas mal quand même, oui.
Ouais, mais j'ai pas fait de natation à haut niveau.
Pas ton sport,
Non. Il n'y a pas eu de natation à haut niveau. En tout cas, l'apnée, c'est un sport qui est surtout basé sur le relâchement. Alors après, il y a de la technique, bien sûr, de nage. On travaille beaucoup la technique en bassin. Mais c'est avant tout basé sur le relâchement et le dépassement de soi.
Comment on découvre qu'on aime le froid, en fait? Comment ça se passe? C'est petit, tu te dis je kiffe le froid.
En fait, on n'aime pas le froid directement. En fait, on aime les effets du froid.
Okay.
Sur le corps, quand on fait ça régulièrement, c'est ça qu'on aime. Parce que se mettre dans de l'eau à 3 degrés, sur le moment, c'est jamais très agréable. Non, même pour moi qui suis acclimaté, même pour des nageurs en eau froide qui font l'ice mile ou qui font des compétitions de nage en eau froide, c'est jamais très agréable le moment où on se met dans l'eau, quoi. Après quelques minutes, ça passe. D'ailleurs, on se sent vachement mieux. Les endorphines commencent à arriver, on commence à s'adapter. Mais c'est surtout les effets au long terme et même après être sorti de l'eau où on se sent quand même vachement bien. C'est ça qui est très, très
important. Comme la cryothérapie.
Alors, la grande difficulté, c'est que ton corps va réagir à ce froid et même se défendre, essayer de se protéger contre ce froid. C'est ce qui rend la nage en apnée sous glace difficile, parce que sinon, nager sur 100 mètres en apnée, il y a pas mal d'apnéistes qui sont capables de le faire.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe exactement dans ton corps lorsque tu es immergé dans une eau à pratiquement 0 degré?
C'est ce qui fait vraiment la différence d'ailleurs entre l'eau, l'apnée en eau tempérée, l'apnée en eau glacée. J'ai un record perso à 221 mètres dans la même discipline, à la brasse en bassin, et là je vais à 105 mètres dans l'eau glacée, donc il y a vraiment un énorme gap.
Ouais, c'est 50% quoi.
Et ouais, quasiment, ouais. Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la température, qui fait que on est dans l'inconfort très très vite, donc mentalement
quand tu gères ta respiration, est-ce qu'il n'y a pas le stress qui vient se mêler?
Il y a un petit peu de stress, mais somme toute la ventilation, j'arrive à la gérer assez bien. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, qu'on se met dans l'eau froide, on a tendance à halter, à vraiment avoir la ventilation qui s'emballe. Ça, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on apprend quand on fait de la nage en eau froide, même sans faire d'apnée d'ailleurs, c'est de réussir à contrôler la ventilation quand on se met dans l'eau froide. Et ça, c'est un truc qu'on apprend vraiment dès le début, donc ça s'apprend assez vite. Non, la difficulté, c'est surtout dans l'envie de respirer qui arrive très vite quand on se met dans l'eau froide et quand on fait de l'apnée en eau froide.
C'est la panique.
Non, c'est vraiment le froid qui fait ça. Le froid, en fait, va venir déclencher une vasoconstriction très très forte. le cœur va très vite ralentir. Et en fait, ça, c'est des choses qui déclenchent en fait l'envie de respirer et l'inconfort. Ouais. Et qui vont arriver beaucoup plus tard.
J'ai eu une expérience comme ça, parce que moi j'avais un bar avec un grand frigo comme ça. Et les jours, les mecs nous avaient pas payé, on avait mis 20 minutes dans le bar, il avait tenu 20 minutes dans le frigo. Je jure, le mec nous avait pas casqué, on avait 20 ans, on avait un bar, tu sais, avec Bernard, et le mec nous avait pas casqué, on l'a mis 20 minutes dans le frigo.
Non, mais vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai, le mec, il était, le truc, le frigo, il était à moins, il senti comme mon poids, il allait sur
il a payé après.
Avec toi tout le long, il y a des trous tous les 10-20 mètres pour si jamais il y a une urgence pour remonter.
Alors en apnée, il faut savoir que ce soit en profondeur ou en piscine ou même sous glace, on n'a pas de plongeur avec nous en bouteille, hein, jamais. On a des apnéistes de sécurité qui nous accompagnent sur la performance.
Tu perds la tête.
On n'a pas de plongeur en bouteille. C'est-à-dire que c'est des apnéistes qui gèrent la sécurité. En
fait. À partir du moment où tu respirerais, il faudrait faire des paliers après.
Exactement. Alors, de toute façon, moi, je peux pas respirer au fond. Si je descends en profondeur, c'est impossible. Effectivement, c'est vraiment très, très dangereux. Donc, il faut surtout pas respirer d'air au fond. On ne respire pas d'air au fond. C'est des apnéistes de sécurité qui assurent notre sécurité. Alors, ils viennent nous chercher pas jusqu'au fond. Ils font pas la même performance que nous, hein. En fait, ils nous attendent à 30 mètres de profondeur et ensuite, ils assurent la fin de la remontée avec nous. Parce que c'est là, en général, on a le plus de risques.
Arthur, sur la difficulté de la performance physique, tu nous as parlé du froid qui donne envie de respirer rapidement, du cœur qui ralentit pour s'adapter à ces températures. Tu n'as pas parlé des muscles, parce qu'on suppose que ça doit tétaniser assez vite.
Pas tant que ça, ça va. Au niveau musculaire, j'ai pas eu, moi, trop de problèmes sur 2 minutes 30 de nage, ça va. J'ai déjà eu des problèmes musculaires en nage en eau froide, mais qui arrivent vraiment après 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes de nage. Quand je suis encore à moins de 10 minutes, ça va, j'ai pas trop de problèmes de tétanie musculaire à cause du froid, ça circule encore.
Mais c'est vrai que quelqu'un de pas entraîné dans une eau à 2 degrés, comme c'était sûrement le cas de l'Atlantique Nord quand le continent a coulé,
quelqu'un de pas entraîné peut tenir, je pense, 20 minutes avant d'être vraiment en hypothermie grave, 20 à 30 minutes.
Minutes.
Ça peut se faire. Alors il va passer un sale quart d'heure, hein, mais je pense qu'il peut tenir 20 minutes avant de plonger vraiment dans une hypothermie profonde. Pour quelqu'un d'acclimaté, comme je le suis en ce moment, se mettre dans l'eau, c'est toujours un moment qui est pas très très agréable. Le fait d'être acclimaté, ça fait que je vais mieux réagir à cette immersion en eau froide et que je vais pouvoir justement tenir plus longtemps sans tomber en hypothermie. C'est ça en fait l'acclimatation. Mais le désagrément, l'inconfort de l'eau glacée, je vais de toute façon le ressentir comme quelqu'un qui n'est pas acclimaté. C'est juste que je vais pouvoir rester plus longtemps et avant de tomber en hypothermie. En fait.
Mais vaut mieux mourir.
Est-ce qu'il y a un mec comme Adrien ou moi, on peut demain aller se mettre en slip de bain dans une eau à 0 degré sans trop de difficultés?
C'est que mental. On verra pas la différence. On verra pas la différence au niveau du slip de bain pour toi.
Vous voudriez nager au milieu des phoques, dans des pays nordiques.
Ton record, c'est combien?
Par exemple, en profondeur, je suis allé sur 65 mètres. Je peux descendre à la brasse, je peux descendre à la palme.
Le record est à combien? À 100 et quelques, non?
Alors à la brasse, par exemple, le record du monde est à 103 mètres, je crois. Ouais. Voilà, moi je suis à l'aise sur 65, mais je suis pas du tout limité par l'apnée ni par la technique. C'est vraiment la compression au niveau de mes poumons. C'est un petit peu technique, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment la compression que je dois gérer et que j'ai du mal encore à gérer. Et ça demande de l'acclimatation.
C'est parce que
long
tu
terme.
Fumes trop.
Voilà, parce que j'ai trop
les gaufres.
Trop de chichas.
Arthur Guérin Bouéry, record du monde 105 mètres en apnée sous la glace en maillot de bain.
Souvent on dit qu'il vaut mieux mourir de froid parce que c'est un engourdissement que par le feu.
Ouais, mais je rassure tout le monde, voilà, l'apnée est un truc accessible et très peu risqué, et l'eau froide aussi, il faut le faire de la bonne manière.
Merci.
Imagine-toi, les mecs, tu t'attrapes en Argentine, ils te font le supplice de la baignoire, le mec, il fait une heure.
On revient tout de suite dans le Super Moscato Show avec le Kikadi. Un petit cadeau pour finir l'émission sur un gros délire, et puis ensuite l'Intégral Sport sur RMC à partir de 18h.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Allez Adrien, il nous reste la dernière ligne droite, le Kikadi.
Vincent va être exceptionnel dans Kikadi, niveau incroyable et vous allez vite comprendre pourquoi.
Allez, c'est parti, le Kikadi du 17 mai.
RMC,
RMC, le Kikadi du Super Moscato Show.
Le Kikadi Mickaël face à Aurélien, 250 euros de bons d'achat chez cadeau.com. Bonjour messieurs.
Ouais, bonjour.
Salut. Mickaël, alors tu peux jouer avec Vincent et Denis.
Et la fibre.
D'accord. Alors.
La foudre.
Je
la foudre,
te signale juste que Vincent vient de confondre DJ Snake et Guillaume Cézenec.
Non, c'est nouveau. C'est DJ Cézenec.
C'est difficile à assumer quand même.
Sinon, tu joues.
Il a pas retrouvé Eric et moi. C'est pour ça.
C'est ça, ouais.
Eric et moi qui avons un point d'avance. Alors, tu joues avec qui?
Allez, je vais jouer avec Vincent.
Avec DJ Cézenec, voilà. Ok.
DJ Cézenec.
C'est incroyable cette truc.
Alors, on me dit qu'il y a un problème en régie de, pour tout ce qui est de, pour lancer les musiques, etc.
Il faudrait que quelqu'un
fasse la petite musique DJ.
Propose de faire Fred le fait à chaque fois sur les
musiques. C'est très inquiétant. Je vois notre réalisateur Luc Pelletier qui est au téléphone. Là, c'est très inquiétant.
Ça va, il prépare la soirée tranquille.
Mais il gère le problème.
Antenne.
Oui. Bon. C'est revenu, c'est bon. Nous sommes à l'antenne, c'est revenu. Il n'y a pas de souci. Bon.
Vas-y, fais coup d'essai avec les.
Fais la musique.
Les jingles.
Enfin, qui canisse sans cette musique, ça aurait été bizarre. Quand même.
C'est dur.
Ça aurait déstabilisé.
On apprenne la musique parce que si un jour il y en a.
Pour tout le monde. Ouais, dans quel sport évolue Andrea Gianni?
C'est volley.
Bien sûr.
Sélectionneur italien de l'équipe de France de volley. Voilà. Andrea Gianni. Voilà,
là, on n'était pas en danger, Pierrot, pour attendre 5 minutes, jamais il aurait trouvé.
Ouais, parce que je pense même pas que Roumat sache que.
Même Antoine Varnier, il ne connaissait pas celui-là.
Moi, j'ai pas besoin du téléphone.
Pour pas trouver, tu n'as pas besoin du téléphone, en effet. C'est quand même la roue, c'est pas comme que
tu trouves plus rien,
Eric. Hein, alors là, je vous ai brûlé sur la question.
On a de moins en moins de nouvelles d'Olivier Roumat, ancien joueur de
tennis.
Peut-être
il y a du travail en ce moment. Il invente des nouvelles blagues. Monsieur et madame ont un fils.
C'est un joli métier.
Eh oui.
Qui a dit c'est la pire année, non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie.
Tchonga. Non, c'est je l'ai vu ça.
Carlos Simon. Lorsque je ne suis pas heureux dans le foot, je ne suis pas heureux dans ma vie.
Hasard.
Il a 35 ans.
Ouais. Hasard.
Magnifique joueur de foot, très élégant.
Fabregas.
Fabregas, oui.
Ah oui, c'est ça.
Il joue alors Fabregas, Vincent?
Quitte-moi. Il joue. Si tu sais pas où joue Fabregas, t'as pas le point.
Monaco.
Ah oui. Ben il a même reçu le truc derrière.
C'est bien joué, Vincent. Bravo.
Non, mais dis pas bravo. Ça devient une mascarade, Adrien.
Ça
devient une mascarade.
Je me dis.
Motive-toi en te disant que ton adversaire c'est Antoine Varnier, qu'il faut être
plus rapide. Oui, tiens raison. Oui, c'est vrai, tiens raison. Je joue pas contre lui.
BFM TV.
C'est comme ça qu'il faut voir la
tête. BFM TV, ça ne vous aura pas échappé. Elisabeth Borne est première ministre de la France.
Éducation.
Elle a été conseillère de quel ministre de l'éducation?
C'est Ségolène Royal.
Non?
Ah non, c'était comment il s'appelle?
Lang.
Oui, je l'ai vu ce matin.
Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Elle a été conseillère de Jack Lang, ministre de l'éducation, Pierrot, donc elle est de gauche, Pierrot.
Oui.
Alors,
tu me pourras.
Pierrot,
il a failli.
Alors,
Pierrot,
quand même, tu ne peux pas dire, mais elle est de gauche, Pierrot.
Ah ouais, en privatisant les autoroutes. C'est mais vrai, quand c'est une belle mesure de gauche.
Tu veux que tout soit gratuit. À un moment donné, il y en a qui vont casquer quand même. Parce que les choses, ils se font pas tout seuls. Il y a le bon Dieu, il n'arrive pas à dire ça.
C'est un mélange de
choses. Attends, Paris.
7h50, demain, l'analyse politique du Moscato Show chez Apolline de Malherbe. C'était la minute politique.
Moi, je trouve qu'elle est extrême gauche.
3-1.
Question auditrice, auditeur. Question auditeur, Mickaël et Aurélien. Quelle est la dernière personne de nationalité française qui a gagné Roland-Garros?
Marie Pierce,
oui, il y avait un piège. Marie Pierce en 2000 non, déjà.
Ça, c'est pour l'eau, ça.
Non, c'est pas pour vous. 4-1.
Marie Pierce. Et oui, le réflexe, c'est de Yannick Noah, forcément. Deuxième question auditeur. Quel sport pratique Luka Doncic?
Du basket.
Mickaël, bravo.
On parle de Luka Doncic, bien sûr, dans le Basket Time de la semaine, puisque c'est le dernier carré, le final NBA et le Final Four de l'Euroleague.
Un des podcasts en France de sport qui marche le mieux.
J'en profite pour vous dire aussi de télécharger cette semaine exceptionnellement, bien sûr, RMC Fighter Club, je dis numéro exceptionnel plutôt, pour revenir sur la défaite de Tony Yoka, j'en profite pour le placer.
Bravo. C'est quoi le score?
4-2 pour nous.
Pas facile celle-là, mais vas-y, parfois il faut se confronter à des difficultés. Donnez-moi le nom de l'entraîneur en rugby du Leinster.
Smith Jones, O'Gara,
Cullen. Cullen ou Cullen?
Cullen, bien joué de nuit. Léo Cullen. Cullen, grand joueur irlandais.
Attends, tu t'imagines, c'est comme si toi tu me demandes. Non, mais vas-y, Pierrot, demande-moi l'entraîneur de la finale de la Ligue des Champions. Puis, s'il te plaît, Pierrot, puisque le mec a commenté la Coupe d'Europe, il va commenter la finale.
Mais non, moi je connais Klopp et je connais Ancelotti. Donc
oui, je suis sûr qu'on l'aurait trouvé avant toi, c'est bizarre.
Non, ça fait 4 à 3, il n'y a qu'un point d'écart, ok.
Encore une DFM, c'est chaud là.
Attends, bouge pas, je me concentre.
Attends, bougez pas, je fais mon code du téléphone, je l'ouvre. Alors, BFM TV, cette année, qui est la maîtresse de cérémonie du Festival Fira, de Cannes?
Virginie Fira,
bien sûr.
Je l'ai, je suis là.
Pierrot, toujours numéro 1 sur
Pierrot, la première fois dans le mois qu'il a une réponse, tu lui passes devant. Ça me rend fou, ça.
5-3.
C'est pas gentil, Pierrot. C'est un peu cher. Cette frustration prouve que c'était la première fois qu'il avait une vraie réponse.
Oui, oui, il a trouvé sans toi.
Tu vois, comment tu dis tout? Tu vois, tout commenté, c'est tout.
La semaine dernière, il avait tout trouvé en studio.
Tu sais quoi? Tu sais quoi? Ça, c'est les 7 ans de malheur qui commencent.
Alors, Kikadi, c'est une personne qui évolue dans le sport. C'est une personne qui évolue dans le sport, mais qui a parlé un peu de politique. Sur une femme première ministre, elle dit, Kikadi, on en est encore à se dire, pour la première fois c'est une femme, c'est un peu dommage quand même, j'attends le jour.
Moresmo.
Amélie Moresmo.
C'est moi. Ça bouge là.
C'est Amélie Moresmo dans C'est à vous hier, qui est directrice de Roland Garros. Amélie Moresmo.
Non, tu n'as pas dit Moresmo. Tu as pensé, mais le problème. Le problème, c'est que la distance entre la tête, le cerveau et la bouche, c'est ouais.
T'es sûr,
tête comme ça.
Donnez-moi le, juste le nom, si vous pouvez, ou le prénom et nom, comme vous voulez.
Ah, tu mets le femme et tu te fais engueuler maintenant.
Elisabeth Borne.
Président du Conseil européen, s'il vous plaît. Vous êtes sur une fausse route.
Répète la question.
Van der Linden.
Le président du Conseil européen.
Ah, c'est Michel. Charles Michel.
Mais oui, mais
c'est Charles Michel. Il vient de le recevoir.
Alors aujourd'hui, il y a un souci avec la fibre. Ça arrive pas vite dans l'habitude.
Mais là, c'est la 3G qu'il a aujourd'hui.
Michel. Alors il y a 7-3, est-ce qu'il y a la golden ou est-ce qu'il n'y a pas la golden?
Frédéric Mouillet.
Il n'a même pas honte le mec,
on n'a pas été récompensé aujourd'hui.
Golden aujourd'hui ou pas?
7 ans de malheur qui commence. 7 ans de malheur des Kikadi.
17h52, la golden carotte n'est toujours pas là. Elle est toujours en week-end la golden.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous aimez Vincent Moscato.
Oui.
Vous l'aimez pour tout un tas de raisons. Se moquer de lui par exemple. Alors moi j'adore me moquer de lui. Ce qui est bien, c'est qu'il ne m'en tient pas rigueur. Et pourtant, parfois, je suis sévère avec lui. Alors, à vous de déterminer s'il le mérite ou pas. Nous sommes le mercredi 3 novembre et Vincent nous parle de sa passion pour la ville de Séville.
Jolie ville.
Est-ce que tu vas Parle-nous de Séville plutôt, parce que tu vas de temps en temps.
Alors, pourquoi c'est bien, c'est intéressant parce que j'aime bien le débat. Un jour, j'aimerais bien qu'on fasse le débat des supporters d'un club étranger.
T'as rencontré
Non. J'ai ma grand-mère qui est espagnole et mes grands-parents qui ont
vécu. Un républicain qui est venu manger le pain des Français, d'accord.
Oui, c'est un peu cette histoire. Mais bon, si je racontais toute l'histoire de ma famille, on en a pour des heures. Effectivement, je suis supporter de Séville du fait que j'ai des origines espagnoles. Que je suis allé petit, évidemment, au stade Sanchez-Pizjuan, et donc, du coup, je suis devenu fan de Séville, comme ça.
C'est sympa.
Après,
J'ai mangé hier midi petit plumain, petit plumain, mon Vincent, là, comment c'était bon.
C'est vrai.
Avec des
des Pimento del Padrón, là.
Oui. Raconte-moi ta soirée, Eric.
Oh, et puis alors, ça a fini. Alors, écoute-moi, j'étais déguisé de toréador, mais j'avais pas, mais c'était pas une épée que j'avais dans la main.
Et là, c'est rien dans la main. Mais ce que t'avais.
Je jure, je comprends pas. J'ai fini à toréador avec un toréador.
C'est quand t'es assis que ça fait mal sur la corde.
Et avec la cape, non?
La boulette.
Merci à Guillaume, alias Memo del Sevilla, sur Twitter, merci, que l'on suit régulièrement. Voilà.
On n'oublie jamais que c'est une ville que j'ai envie d'aller.
Vous m'ennuyez maintenant.
C'est horrible.
C'est dingue comme ça arrache les oreilles.
Ribéry l'avait dit, Boulogne, c'est une ville que j'aime bien venir.
Il a pas dit que j'ai envie d'aller, il a dit que j'aimerais en venir là-dessus.
Oui, oui. Parce que
j'aurais bien aimé aller dans cette ville et j'irai bientôt.
C'est bizarre que tu ne sois jamais allé, toi qui es si fort en flamenco, c'est vrai que tu m'as fait le flamenco.
Oui, j'adore le flamenco.
Je sais.
Oui. J'adore, je raconterai une fois, j'étais déguisé en flamenco, je vous montrerai ça.
Non, mais... Quand tu étais au stade français.
Ouais. Ouais. Ah oui.
Avec les castagnettes.
Avec le maillot rose.
Voilà, Vincent Moscato ne peut plus se moquer de Franck Ribéry désormais.
Une ville que j'aimerais venir, c'est extraordinaire. Merci Vincent.
Allez, dans un instant, c'est l'Intégral Sport sur RMC. À tout de suite.
À demain.
Les meilleurs moments du Super Moscato Show sont disponibles en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.